C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mercredi 24 novembre, bonne journée, bienvenue au 98,5. Un ciel dégagé ce matin, c'est un matin froid. Matin de novembre, autour de moins 7 degrés, mais on prévoit une belle journée. Du soleil, des vents légers et le maximum aujourd'hui autour de 1 degré. Habituellement, la température moyenne, ça tourne 3 degrés et je vous dirais, durant la nuit, ben, ça descend quand même à moins 4, ce qu'on aura la nuit prochaine. Demain, jeudi, généralement nuageux, quelques percées de soleil, 2 degrés. Et à partir de la soirée, ben là, ça se couvre davantage et on aura des précipitations pour terminer la semaine. Est-ce que ce sera de la pluie, de la neige? Difficile à dire pour l'instant, parce que les températures tournent autour du point de congélation. Mais on pourrait avoir quelques centimètres dans la région de Montréal, mais c'est pas certain. Un. Deux, en périphérie, donc assez éloigné. Là, cependant, on pourrait se retrouver avec une quantité plus importante de neige. La bonne nouvelle, c'est que pour la fin de semaine, samedi et dimanche, ce sera froid, mais on prévoit du temps quand même ensoleillé, nuages. Autant samedi que dimanche, là, pour l'instant, on parle de température le jour, moins 3, moins 4 degrés, mais quand même de belles journées. Je vais vous parler de la vaccination qui commence ce matin pour les enfants, mais d'abord, le scandale, c'est-à-dire la situation dans les centres de soins de longue durée durant la première vague de la pandémie. Et ce matin, on va se parler franchement. Depuis le début, je pense et je répète qu'il était nécessaire d'avoir une commission d'enquête publique, ce que le gouvernement a refusé pour des raisons politiques électorales. Le gouvernement a préféré diviser le travail avec commissaire à la santé, enquête du coroner et la protectrice des citoyens, Mme Marie Rinfret. Ce qui fait qu'on a ça par morceaux. Quoique le travail de Mme Rinfret est impeccable, elle nous dit, malheureusement, ce qu'on avait pas mal compris, c'est que les vieux ne comptaient pas au Québec lors de la prise de décision durant la première vague de la pandémie. En fait, et ça peut s'expliquer dans un contexte, on est au mois de janvier, on voit les premiers cas de COVID qui, à travers le monde, frappent les réseaux de santé. L'Italie est secouée. Et là, on se demande si on va faire des choix entre des patients parce qu'on manque d'équipement. Pourtant, c'est pas avant le mois de mars que Québec va décréter un confinement. Donc, janvier, février et jusqu'au début mars, après le congé scolaire, où était la préoccupation de la situation dans les centres de soins de longue durée? Visiblement, personne s'en est occupé. Et on connaît la suite. C'est-à-dire, ça a déboulé. Des éclosions, du personnel contaminé, des établissements sans équipement et surtout sans plan, sans capacité, de gérer une infection de cette nature. Pourtant, un plan existait. On sait très bien que c'était dans les cartons du ministère. Quoi faire en cas de pandémie, en cas d'influenza? Québec a pris la décision de regarder le réseau de la santé puis de dire qu'il faut préparer les hôpitaux. Puis non seulement on n'a pas déployé un plan dans les centres de soins de longue durée, on a fait du transfert de patients pour faire de la place dans les hôpitaux. Je vais peut-être vous surprendre, mais cette décision-là de mettre l'emphase sur les hôpitaux face à un virus inconnu, ça peut toujours s'expliquer. Ce qui ne s'explique pas, c'est qu'on savait que ce réseau était à risque, que les gens les plus potentiellement affectés par la COVID au point d'en mourir, c'était les gens âgés, vulnérables, avec un système immunitaire déficient. Ces gens-là, quand tu es dans un centre de soins de longue durée, c'est que tu es en fin de vie et que tu n'as pas d'autre place à aller. Et des établissements là où il manque de monde, où les gens sont pas équipés, où il n'y a pas vraiment de protocole, puis il n'y a pas non plus de gestionnaire. Puis on peut mettre les centres privés publics. Fait une cabane sans protection avec des gens vulnérables a permis au virus de créer l'hécatombe qu'on a connue. La deuxième chose, qui pour moi est pas mal aussi grave, parce qu'on peut discuter puis d'argumenter sur les choix qui ont été faits à l'époque. Qu'est-ce qu'on savait? Puis là, la protectrice insiste là, sur le côté archaïque du ministère de la Santé, l'incapacité d'avoir des informations précises quand tu es un décideur puis que l'info remonte pas ou l'info qu'on te fournit est incomplète. Difficile de faire des choix. Mais retenez une chose. Et moi, c'est pas tant dans le rapport que comparution de M. Arruda, Dr. Arruda, de Mme Mécane, Yvan Gendron, qui sont venus nous dire que depuis le mois de janvier, on avait une préoccupation pour ce qui est des centres de soins de longue durée. C'est ce qu'on nous dit. Au mois de janvier. Il n'y a pas de trace de ça. Il n'y a rien qui existe avant le mois de mars. Et c'est quand même, puis mon ami Patrick Lagacé a parfaitement raison ce matin, c'est quand même particulier que trois personnes viennent témoigner, disent la même chose, sans qu'on soit capable de trouver une trace de ces rencontres ou de ces décisions. Et là, vous arrivez dans ce merveilleux ministère, et Mme Mécane se lave les mains, elle dit quoi? Ça relève pas de moi, là. Il y avait Marguerite Blais, puis il y avait les six puis les sus. Puis c'est au PDG de prendre les mesures nécessaires. Fait que si on a laissé mourir les gens dans des conditions inqualifiables, pas de ma faute. Et c'est ça le ministère de la Santé. Alors, ce que vous voyez, c'est une bureaucratie qui se protège le cul d'aplomb et qui tente de passer le singe à travers les différentes étapes. Puis hier, j'ai écouté le point de presse de François Legault, là, il est en mode « je me protège, je me défends ». Si on me l'avait dit, je le savais pas, personne m'a raconté ça. Pensez-vous que c'est une coïncidence que Mme Mécane ait été relevée du ministère de la Santé en même temps que le sous-ministre Gendron qui vient d'atterrir par intérim à Urgence Santé? Les deux, là. En résumé, c'est clair que on a laissé sans protection les êtres les plus vulnérables du Québec. Et on va se le dire franchement, puis on le répète depuis longtemps, partout dans le monde, j'entendais ça. Il y a, ouais, mais à New York, il y a eu des cas. C'est vrai, tout est vrai. Mais au Québec, là, regardez le nombre de personnes décédées dans les centres. C'est un record qui nous fait honte. Et c'est pas de la faute d'un gouvernement en particulier. C'est une insouciance, une négligence, j'allais dire criminelle, depuis des années. Une fois parqué, ce lobby est silencieux. N'existe pas vraiment. La preuve, c'est qu'il n'y a personne là, qui a dit « Nous représentons les personnes âgées du Québec. Comment allez-vous agir durant cette pandémie? » Ben non. Ils sont malades, on ne les entend pas, ils n'ont pas de voix, puis ça vient de s'éteindre. Je vais parler avec Jean-Pierre Gariépy, l'ancien directeur du service de police de Laval. Sa femme s'est retrouvée dans un centre. Et on lui avait parlé à l'époque, pas de visite, pas de rencontre, des conditions qui n'avaient pas de bon sens. Elle a eu la COVID. Elle n'est pas décédée. Elle est malheureusement décédée, mais elle n'est pas décédée de la COVID. Je pense qu'il y en a long à dire. Docteur Arruda sera avec nous et la protectrice des citoyens, Marie Rinfret, également. Parlons de la vaccination. Ça commence ce matin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Ça se poursuit pour les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, les parents vont faire le choix. La vaccination peut se passer après un rendez-vous donc sur Clic Santé dans un centre de vaccination. Dans certains cas, ce sera l'école. Il y a des unités mobiles qui vont aller visiter les écoles du Québec, mais pas nécessairement toutes les écoles. Et comme parents, vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous pour vos enfants. Donc, ça peut être un rendez-vous de famille, dans le fond, pour être capable de faire vacciner les enfants. Alors, hier, on a compris un certain nombre de choses. D'abord, je rappelle, je le fais pratiquement tous les jours parce que c'est important, le Québec, chez les 12 ans et plus, a un taux de vaccination spectaculaire. Les Québécois ont agi de façon responsable, se sont fait vacciner, et ça inclut les groupes d'âge qu'on pensait peut-être un peu plus insouciants, ados, jeunes adultes. On est dans le 80 % puis 88 %. Là arrive la question des enfants. C'est pas la même dose, on l'a précisé. Ça a été testé, mais beaucoup de parents ont des questions légitimes. On a bien compris la stratégie de Québec, là. On met pas de cible, on vous met pas de pression. On insiste un peu, doucement, sur l'importance de la vaccination pour protéger des enfants, même si les effets secondaires sont pas aussi durs que pour les adultes. Protéger d'autres enfants de l'entourage, à l'école, par exemple, puis protéger les adultes, notamment les personnes plus à risque, les personnes âgées. Bon. En gros, vous avez quoi? 60 % des parents, d'après les sondages, qui, à ce moment-ci, envisagent la vaccination pour leurs enfants. Ce qui fait que vous avez 40 % de gens qui disent non, puis des gens qui le savent pas. Et la question qui revient, en tout cas dans mes courriels, là, est-ce vraiment nécessaire? Et pour paraphraser notre ami Pierre-Yves McSween, en a-t-on vraiment besoin d'un vaccin? Les scientifiques se sont à peu près tous prononcés dans le même sens en disant qu'on comprend que des parents hésitent, puis qu'il y en a qui vont peut-être regarder aller les choses pendant un certain temps. Mais les enfants se font vacciner pour dès leur jeune âge. Et ce vaccin-là s'ajoute. C'est un vaccin qui a été développé rapidement, mais on regarde les études qui ont été faites et l'effet. C'est pas pour rien qu'au Québec, on a des cas qui ont augmenté, mais la pression sur le réseau de la santé, qui est causée presque exclusivement par des non-vaccinés, en passant, fait en sorte qu'on est capable de mieux traverser cette espèce de vague qui s'ajoute. Alors, donc, on va parler avec Philippe Bonneville tantôt, qui va aller se promener dans les centres de vaccination. Et l'idée, c'est de vacciner tous les enfants qui auront l'approbation des parents, parce que il n'y a personne qui va prendre votre enfant de force. D'ailleurs, je voyais des photos hier là qui circulaient pour illustrer la décision du gouvernement là sur les réseaux sociaux. C'est un enfant qui braille avec la main sur la bouche, puis quelqu'un qui rentre une aiguille dans le bras. T'sais, franchement, là, on a-tu besoin de ça? Sérieusement, ça fait pense que c'est inutile. Puis là, en même temps, ben, c'est aux parents de s'informer, puis de réfléchir, puis de prendre la décision, puis de se dire, est-ce que je fais ou pas vacciner mon enfant? Puis je sais que dans certaines familles, ça crée des tensions, puis même dans au sein de gens qui sont vaccinés eux-mêmes, puis des gens qui sont en couple, puis même dans certains cas, des gens qui sont séparés, la fameuse garde partagée quand arrivent ces questions-là. C'est pas toujours très simple. Dans les autres nouvelles, hier, je regardais les propos du gouverneur adjoint de la Banque du Canada, qui s'appelle Paul Beaudry, qui était en Ontario pour faire un discours et qui a mis en garde les familles canadiennes, espèce de lecture des indicateurs économiques que nous avons. En gros, le marché immobilier, je pourrais vous le dire, là, Elisabeth va nous parler des rôles d'évaluation que les gens reçoivent, là. Mais il y a une augmentation, évidemment, de la valeur des propriétés. Et ça se conjugue avec des taux d'intérêt extrêmement bas, mais qui pourraient, en raison de l'inflation, être augmentés. Et ce que le gouverneur adjoint dit aux familles, puis c'est surtout des jeunes familles qui ont acheté une première maison, qui ont payé le gros prix, qui se sont lourdement endettés. Attention, vous allez voir que les paiements, si vous avez un taux variable ou encore votre hypothèque vient à échéance bientôt, risquent d'augmenter. Puis une légère variation, ça veut dire rapidement quelques centaines de dollars par mois qui peuvent s'ajouter au paiement de votre hypothèque. Puis tu sais, on est dans un contexte, puis c'est un peu ce qu'il soulignait aussi. On le sait, l'inflation est réelle. Tout coûte plus cher. Les salaires ont augmenté dans bien des cas, mais pas certain que ça peut tout couvrir. Alors, il a une préoccupation devant ce phénomène-là. que des jeunes familles, principalement, se retrouvent en difficulté. Le syndicat des employés de la Sûreté, pas de la Sûreté, de la Société des alcools du Québec, pardon, suspend sa grève jusqu'au 29 novembre. Donc, on parle des employés d'entrepôt, ce qui bloquait l'approvisionnement des succursales, des restaurants. Et pourquoi la trêve? Parce que semble-t-il que la négociation se passe bien. Et là, c'est une pause. Ils reprennent le travail ce matin jusqu'à lundi fin de journée et on va négocier pendant ce temps-là. Alors, c'est une bonne stratégie de dire, voici, ça avance, on retourne faire les livraisons, c'est la période des fêtes. Est-ce que ça va se conclure par un règlement? On le souhaite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça, là, autant les restaurants que les clients réguliers. Le Journal de Montréal nous dit que Québec a fait son choix et que l'actuelle directrice générale par intérim, Joanne Beausoleil, sera confirmée. Et on sait que c'est un processus quand même. Elle doit être nommée aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Et les partis d'opposition ont eu, d'après ce que le Journal de Montréal nous dit, une rencontre avec elle à huis clos. Puis là, c'est vraiment entouré de grands secrets. Madame Beausoleil a pris la relève de Martin Prudhomme, donc nommée par intérim. Il y a eu plusieurs intérims à la Sûreté aussi avant elle. Et donc, elle a postulé quand le poste s'est ouvert après la démission de Martin Prudhomme. Et c'est elle qui aurait été choisie. C'est une civile. C'est toujours assez délicat pour les civils de prendre la tête d'un corps de police. Quand vous connaissez, vous parlez des policiers. Disons que tu pars avec un élément négatif, ce qui n'est pas insurmontable. Puis il y en a eu dans l'histoire de la Sûreté du Québec. Là. On peut penser à Guy Coulombe, qui avait été sous-ministre pendant des années. Alors, j'imagine qu'on va confirmer la chose quand même bientôt. Discours du trône, je vous en parle à la fin de la revue de presse parce que sérieusement, t'es un peu tanné de la semaine des discours sans engagement précis. Je le sais là qu'un discours du trône, là, c'est un énoncé. Et on a parlé de quoi? De pandémie et de changement climatique. C'est un peu comme Québec solidaire. Tu sais, Québec solidaire, tu dis c'est un nouveau parti, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est un jeune leader. Il ne nous sortira pas les mêmes cassettes que les vieux politiciens. Ben oui. Tu dis, OK, vous avez des cibles. Puis je le vois là sur les réseaux sociaux. On est ambitieux. Pourquoi les gens comme la CAQ nous attaquent là-dessus? Eux n'ont pas vraiment de projet de société. Tu dis, ben oui, OK, mais comment? Comment vous allez le faire? Concrètement, les mesures. On retombe dans les cassettes, dans l'évitement des réponses. Allez-vous augmenter des taxes? Allez-vous faire en sorte que d'acheter une voiture, ça va être plus dispendieux? Le déplacement, taxes sur les carburants. M. Trudeau, c'est pareil, je plante des arbres, parfait. Puis vous allez voir, c'est le plan le plus ambitieux. Je suis plus capable d'entendre ça perso, là. Donc, je le fais par professionnalisme. Oui, il y a un discours du trône. Puis oui, on est demeuré dans des enjeux un peu flous. Puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose à ajouter là-dessus. Également, peut-être dans la presse ce matin, qui note une hausse des saisies d'armes à feu prohibées. On a trouvé pas mal d'armes. Premier trimestre de l'année, là, avril à juin, 509 armes à feu ont été trouvées en faisant le contrôle des frontières. Et c'est une nette augmentation par rapport aux années précédentes. Puis un mot en terminant, on va y revenir plus tard, là, mais le jury a commencé à délibérer en Géorgie. C'est un procès incroyable, encore une fois. Trois hommes blancs accusés d'avoir tué un jeune noir qui s'appelle Ahmaud Arbery. Ça se passe en Géorgie et les trois, le père, le fils et un voisin, voient un jeune noir qui se promène dans le coin. Décident, et c'est ce qu'ils ont plaidé, de faire une arrestation citoyenne. Ça vire mal. Il y a des images vidéo qui circulent et finalement, le jeune homme est abattu et décède. Alors, le jury doit donc déterminer est-ce qu'on a un cas là, de racisme pur puis surtout de meurtre, partir après quelqu'un parce que c'est un noir dans un quartier blanc. La défense se met en lumière que le jeune homme avait des antécédents criminels, que le jeune homme avait l'air de se promener dans le coin, que c'est un rôdeur, dans des maisons en construction, il a peut-être volé des choses, et que le père, le fils puis le voisin ont décidé d'intervenir. Et ce qui est particulier dans le cas de ce procès, me permet d'ajouter, c'est que le jury est majoritairement blanc, plus que majoritairement blanc. Alors, les délibérations qui ont commencé.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, deux événements importants. D'une part, on donnait les détails de la campagne de vaccination pour les enfants du Québec entre 5 et 11 ans. Ça commence aujourd'hui. Et aussi, dépôt du rapport de la protectrice du citoyen Marie Rinfret sur la crise et l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée du Québec. On fait le point ce matin avec Dr. Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique. Dr. Arruda, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec le dossier des centres de soins de longue durée, puis après ça, on va parler de vaccination. Ce que j'essaie de comprendre, Dr. Arruda, là, puis beaucoup d'auditeurs se posent la même question, comme directeur de la santé publique, quand exactement avez-vous compris qu'il y avait un virus dangereux et que ce virus était pour toucher le Québec et qu'il y aurait donc des effets à la fois dans le réseau de la santé, mais aussi directement dans les centres de soins de longue durée, les gens les plus vulnérables. C'est au mois de janvier, c'est au mois de février, c'est quand?
Écoutez, dès le mois de janvier, on a commencé à préparer le réseau, là, mais on avait, bien entendu, à ce moment-là, pas d'idée de caractéristiques précises de ce virus inconnu qui a frappé de plein fouet tout le monde entier. Donc, dès le mois de janvier, on a mis le système sous tension, on a demandé aux gens de commencer à préparer leur plan. Mais c'est clair que le virus est encore inconnu, ce n'est qu'un peu plus tard, en cours de processus, je vous dirais janvier-février, qu'on a vu que c'était un virus qui allait frapper, puis particulièrement, ce qu'on avait comme impression, puis c'est ce qui se passait ailleurs, c'est que comme en Italie, on voyait qu'il allait avoir probablement beaucoup d'impact sur le système de soins, notamment les soins aigus. Mais on savait aussi que ça allait frapper les personnes plus âgées, là. Mais c'est vrai que quelque part, on ne connaissait pas en janvier l'ampleur du phénomène, compte tenu que le virus était complètement inconnu.
Est-ce que je comprends que, et là je vais parler spécifiquement des centres de soins de longue durée, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de mémo, il n'y a pas de directive avant le mois de mars pour préparer les centres?
Bon, là, il faut comprendre que c'est pas nécessairement dans mon secteur, là, mais il y a eu des directives qui ont été données pour que le réseau se prépare à des plans de mesures d'urgence dans les CIS et les CIUSSS, et ça inclut les CHSLD. Je ne peux pas aller plus loin là. Actuellement. Il y a l'enquête du coroner, puis je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Puis ce que je voudrais juste simplement dire, c'est que c'est un drame monumental, on le reconnaît. Il nous a tous fait très mal, et je pense que les enquêtes, j'espère, vont permettre d'élucider et de mieux comprendre les différents facteurs qui ont fait qu'on est arrivé à ce phénomène. Donc, c'est pas une cause à effet, mais plusieurs facteurs.
OK, je comprends là, qu'il y a une enquête du coroner, mais je veux juste clarifier quelque chose avec vous, si vous me le permettez, là. Je comprends que c'est pas votre décision, c'est pas votre responsabilité là, de gérer les CHSLD puis la bureaucratie autour de ça, mais avez-vous été témoin de mémos envoyés directement dans les centres? Est-ce que vous avez participé à des réunions en janvier, avant le mois de mars, en fait, pour dire, écoutez, là, ce sont des gens vulnérables, c'est un réseau qui est vulnérable, comment est-ce qu'on se prépare? Autrement dit, est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas?
On a demandé à notre réseau, à travers la sécurité civile, de revoir leur plan, et donc ça implique tous les établissements qui ont des clientèles, incluant les CHSLD. Là, si vous me demandez, il faudrait que j'aille revoir des lettres ou des correspondances, parce que c'était pas moi qui les envoyais. Donc, on l'a fait, mais est-ce que ça a été spécifique pour les CHSLD en disant tel élément, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
OK. Je comprends que vous n'êtes pas non plus en mesure de me dire, est-ce que, même si on en a parlé, est-ce que ça a descendu dans la machine? On peut en parler, mais vous ne savez pas si ça a été suivi ou pas.
Ça, c'est un enjeu là, que vous avez par rapport à la quantité de directives qu'il y avait, jusqu'à quel point les gens l'appliquaient. Ça, je pense que les enquêtes vont permettre de mieux comprendre cet élément.
OK. Donc, c'est beau envoyer une directive, mais vous n'êtes pas en mesure de savoir si elle est rendue à destination et si on l'applique.
C'est-à-dire que vous comprendrez que c'était multi-équipe, et moi, je m'occupais de la partie santé publique. Là, puis ça, nous, on avait des rencontres quotidiennes pour vérifier l'évolution des choses, puis on avait du feedback de nos directions de santé publique.
Avec le recul, et ça, cette question, Dr. Arruda, là, je la reçois des auditeurs, puis je la pose ce matin. Avec le recul, c'est toujours facile là, après, là, mais avec le recul, compte tenu du fait que les gens qui sont dans ces centres sont âgés, vulnérables, ils sont pratiquement en fin de vie, qu'on connaissait déjà les problèmes de recrutement de personnel, l'absence d'équipement de protection en quantité suffisante, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de mieux protéger ces personnes-là?
C'est une question théorique qui est très difficile à répondre comme telle. Je pense qu'il y a eu, toute une série d'éléments de faiblesse, on pourrait dire, là, qui ont entraîné, mais il faut comprendre qu'on a agi avec les informations qui étaient disponibles, et jamais j'aurais pu imaginer le drame et la façon dont certaines personnes sont décédées, notamment en lien avec un manque de ressources humaines flagrant.
Parlons de la vaccination. Ça commence ce matin, donc, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Au point de presse hier, le message était quand même assez clair. Il n'y a pas de cible précise. On ne veut pas mettre de pression sur les parents. En même temps, on insiste sur les effets bénéfiques de la vaccination. Premier constat qu'on peut faire, Dr. Arruda, là, au Québec, les 12 ans et plus, là, c'est un taux de vaccination absolument admirable. Là, je veux dire, on le voit que ça permet d'éviter des hospitalisations, des décès. Qu'est-ce que les enfants vont ajouter à cette vaccination exceptionnelle?
Bon, il faut probablement, c'est vrai, vous l'avez mentionné, puis je suis très, très fier des Québécois en lien avec le fait qu'ils ont respecté de façon assez importante nos consignes. Et aussi qu'ils ont été au rendez-vous pour la vaccination parce que c'est l'arme qu'on a la plus efficace. La preuve, actuellement, les éclosions, il y en a dans les écoles primaires, beaucoup, 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 beaucoup. Le groupe actuellement le plus touché, c'est les enfants de 5 à 11 ans et les enfants en garderie. En milieu secondaire, il n'y a presque pas d'éclosions. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup comparativement. Donc, c'est clair que la vaccination fonctionne et j'invite tous ceux qui n'ont pas eu leur première dose à éviter de se retrouver à l'hôpital puis mourir aux soins intensifs ou d'être malade. La vaccination des enfants va permettre de diminuer les éclosions en milieu scolaire et autres. Et vous comprendrez que c'est vrai que les enfants sont moins malades que les adultes, mais il y a quand même certains enfants qui ont eu de la COVID longue. Il y a eu quand même des enfants qui ont eu, avec la COVID, ce qu'on appelle un syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant. Là. Il y a quand même qui atteint différents organes. Donc, il y a quand même un risque qui est beaucoup plus faible que celui que représentent les plus vieux, mais en diminuant, je dirais, les éclosions en milieu scolaire, les écoles vont pouvoir ouvrir, les enfants vont pouvoir aller faire leurs sports, leurs activités. Vous comprendrez que dans le développement de l'enfant, particulièrement des 5 à 11 ans, toutes ces activités-là sont majeures et ils ont déjà été pénalisées, je vous dirais, l'année dernière en n'étant pas à l'école, seulement téléenseignement. Donc, ça va être une bonne chose et moi, j'invite les parents à offrir ce beau cadeau-là à leur enfant parce que ça va les protéger, ça va aussi diminuer les épidémies dans les écoles, donc les écoles vont rester plus longtemps ouvertes et ça va diminuer le risque de transmission de l'enfant dans sa famille et notamment auprès des personnes plus âgées.
Il y a des parents qui sont hésitants, là. On parle pas de gens qui sont contre les vaccins, là. Eux-mêmes sont vaccinés. Mais ce que je vois dans les commentaires de mes auditeurs ce matin, c'est dit « Ouais, mais là, ils commencent la vaccination. Je vais attendre 2-3 semaines pour voir comment ça se passe avant de faire vacciner mon enfant. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Bien, moi, je pense que, personnellement, je considère que je respecte cette chose-là. C'est pour ça qu'on a promis notamment d'objectifs comme tel pour les parents. On veut bien les informer. Déjà, actuellement, on a à peu près 110 000 rendez-vous hier soir à 16 heures, donc on est monté, il y a des gens qui veulent le faire. Je voudrais dire aux parents que c'est un vaccin qui va donner un tiers de la dose des adultes. On a, dans les études à date, puis il y a eu beaucoup de vaccinations, notamment aux États-Unis, on n'a pas démontré d'effet et on ne mettrait pas sur le marché un vaccin qu'on pense qui aurait des effets non sécuritaires comme tel. Moi, personnellement, je vous le dis, moi, je suis pour les vaccins, bien entendu. Je pense que d'attendre, ce que ça fait, c'est que ça retarde la protection de l'enfant, puis il va arriver à Noël potentiellement moins protégé que si on commence le plus rapidement possible. Parce que dès qu'on donne une dose, on a une bonne protection, puis il y aura une deuxième dose. Mais il faut que les parents se sentent à l'aise. C'est pour ça qu'on leur donne l'information, il faut qu'ils se renseignent adéquatement. Mais je peux vous dire que je n'autoriserai pas la rentrée d'un vaccin non sécuritaire actuellement. Et les données préliminaires, c'est sûr qu'il pourrait toujours y avoir des effets secondaires très, très rares. Mais en termes de bénéfices pour l'enfant versus les inconvénients, c'est clair que le bénéfice est au rendez-vous pour ce groupe-là comme pour d'autres.
On comprend que la vaccination des enfants mobilise là, quand même beaucoup de personnel. La question concerne maintenant la troisième dose. Il y a déjà des groupes ciblés là, qui peuvent prendre rendez-vous, obtenir la troisième dose. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent à quel moment les 50 ans et plus vont recevoir la troisième dose parce que le calendrier avance. Est-ce que c'est par un manque de vaccins ou de personnel pour l'administrer qu'on retarde cette possibilité pour les gens de 50 ans et plus?
Absolument pas. C'est qu'on n'a pas reçu l'avis de notre... Il faut comprendre que vous allez dire, écoutez, aux États-Unis, ils l'ont fait, ailleurs dans le monde, ils l'ont fait. Mais n'oubliez pas qu'au Québec, on a demandé d'avoir un intervalle minimum, à un moment donné, de 16-12 semaines. Et ce qui est très clair maintenant, c'est que plus on attendait entre les deux doses, plus on avait une immunité qui pouvait perdurer longtemps de meilleure qualité. Et donc, au Québec, nos analyses démontrent que actuellement, le groupe qui était le plus à risque, c'est les 80 ans et plus. Par prudence, on a ajouté 70 en montant. Mais actuellement, pour ce qui est des autres groupes, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'arrivera pas, mais on n'a pas la recommandation. Et on préfère attendre au bon moment pour la bonne personne, pour ne pas non plus perdre de l'immunité. Et aussi, en même temps, plus on se tarde, plus on va prolonger probablement la période à laquelle les gens vont être protégés. Donc, c'est vraiment pas une question de logistique ou de ressources. Ça, on s'organise par après. C'est vraiment une question de recommandation. Le SIC, notre SIC, nous l'a pas recommandé.
Et pour les travailleurs de la santé, même raison?
Les travailleurs de la santé, c'est le groupe qu'on va regarder actuellement parce que ce sont ceux qui ont été vaccinés parmi les premiers, mais aussi qui, dans certains cas, parce qu'ils devaient aller travailler, ont eu des intervalles plus faibles. Mais actuellement, on surveille ça. Là, je peux vous dire qu'on regarde les données quotidiennement. Et si on sent qu'il y a un signe de baisse d'immunité, on va intervenir.
Ce que je comprends, là, c'est que les travailleurs de la santé, en gros, prochain groupe à être vaccinés avec une troisième dose.
On regarde, mais ça dépend. Si on se rend compte que c'est d'autres groupes qui sont aussi atteints, on va le faire. Là. Comme je vous le dis, on va le faire en fonction de notre propre diagnostic au Québec et de notre épidémiologie, compte tenu des différences qu'on a mises en place au Québec en termes de programme de vaccination.
OK. Là, je sais que pour les fêtes, les congés puis les rassemblements du temps des fêtes, vous voulez pas vous prononcer, vous voulez donner un peu de jeu. Là, on est le 24 novembre, jusqu'à nouvel ordre, Noël, c'est le 25 décembre. À quel moment vous pensez que vous allez vous prononcer là-dessus sur le nombre de personnes dans les maisons qui seront, admises? Bref, les mesures sanitaires pour la période du temps des fêtes.
Ben, je vous dirais le plus rapidement possible, bien entendu, en ayant quand même un bon portrait de la situation. Ce que je demanderais aux Québécois actuellement, c'est de respecter les consignes qui sont actuellement en cours pour qu'on puisse arriver au temps des fêtes avec un nombre de cas qui va nous permettre d'augmenter le nombre de personnes éventuellement sans prendre trop de risques par rapport aux hospices. Fait que je pense que ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est respectons les consignes. On sait que les cas sont en hausse, qu'ils vont augmenter un peu, mais on veut pas qu'il y ait plein de gens hospitalisés. Et si on arrive à Noël avec un chiffre plus bas, puis on sent que la tendance est adéquate, bien on va pouvoir à ce moment-là se permettre un temps des fêtes adéquat. Donc, essayez d'attendre Noël avant de faire des parties.
Docteur Arruda, merci. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite à tous un bon hiver.
Merci, Dr. Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique. Je rappelle pour la vaccination là, qu'il n'y a pas de passeport vaccinal pour les 5-11 ans. Alors, vous n'avez pas de vaccin pour votre enfant. Là, ça ne l'empêchera pas d'aller au restaurant avec vous, par exemple.
L'essentiel de Paul Arcand.
Vous venez d'entendre le Dr. Arruda qui nous dit, avec prudence, parce qu'il y a une enquête du coroner, qu'on a parlé dès le début de l'année, début de la première vague, si vous voulez, du danger que représentait le virus, c'est que la grande question, il n'y a pas de réponse pour l'instant, est-ce que les discussions en haut de la pyramide ont généré des directives vers le bas et donc applicables sur le terrain? Et la protectrice sera avec nous tantôt pour nous dire que non, que pas avant le mois de mars, un véritable plan d'action a été déployé, puis il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Mais surtout ce matin, ce qui est important, c'est de se rappeler de ces personnes qui se sont retrouvées dans ces centres, qui avaient été, dans beaucoup de cas, abandonnés par du personnel contaminé, des gens qui se sont retrouvés, donc, avec pas de moyens de défense, coupés d'un proche qui ne pouvait plus entrer à l'intérieur, puis des gens qui ont donc eu la COVID. On avait parlé à l'époque avec M. Jean-Pierre Gariépy, l'ancien directeur du service de police de Laval. Au mois de mars 2020, sa femme avait été transférée de l'hôpital Sacré-Cœur vers le CHSLD Sainte-Dorothée à Laval. M. Gariépy, bonjour.
Bon matin à vous, M. Arcand.
D'abord, juste pour rappeler à nos auditeurs, votre femme donc avait été transférée et une fois sur place, assez rapidement malheureusement, elle avait été contaminée et donc testée COVID positif.
Oui, à peine 7 jours plus tard, on m'avait informé le 5 avril que Louise avait attrapé, contracté la COVID, le virus de COVID, suite à un test qui avait été pris sur elle il y a quelques jours auparavant.
Quand votre femme a été transférée, et on a vu là avec les différents rapports qu'il y a un nombre quand même important de gens qui étaient à l'hôpital, dans différents hôpitaux pour être plus précis, mais qui ont été transférés vers les centres, et on comprend que la stratégie c'était de dégager des lits pour des patients COVID à venir à l'hôpital, elle est arrivée dans un établissement qui ressemblait à quoi à ce moment-là, en termes de personnel, en termes de ressources puis qualité de soins?
La COVID avait déjà débuté au CHSLD Sainte-Dorothée, bien avant que Louise arrive. Les constats n'étaient pas aussi dramatiques que ceux qui sont survenus les jours et les semaines suivantes, là, où Louise était déjà au CHSLD. Mais il y avait pas, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, parce que j'avais pas accès à l'établissement, ça nous était défendu depuis le 14 mars d'entrer dans tous les établissements, que ce soit hôpital ou CHSLD ou endroits semblables où il y avait des gens alités. C'était défendu aux familles d'aller voir nos proches à l'intérieur des établissements. Alors, j'ai pas pu entrer au CHSLD Sainte-Dorothée, mais ce que j'ai appris par les gens à l'intérieur, après que j'ai eu droit à accès à l'établissement, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de gros problèmes, sinon que déjà des employés avaient contracté eux aussi la COVID et étaient partis chez eux, évidemment. Et par contre, sous menace, à l'époque, et je le tiens du syndicat de l'endroit et d'employés que j'ai pas interviewé, mais que j'ai rencontré plus tard, qui m'ont dit que des employés qui avaient contracté cette maladie, voulant s'en aller chez eux, avaient eu directive de demeurer sur place sous peine de perte de leur emploi.
Le Centre de soins de longue durée Sainte-Dorothée fait partie de ceux qui sont examinés par le coroner dans le dossier. Vous avez lu le rapport de la protectrice du citoyen.
Oui.
Comment vous réagissez devant les conclusions de Mme Rinfret, par exemple?
De bien des façons. D'abord, un certain baume sur le fait qu'enfin le constat, tel que je le croyais moi, est apparu. Alors, j'étais fier du travail de Mme Rinfret sur tous les constats qu'elle a faits. Par contre, c'est tellement déplorable de voir comment ça s'est passé, tellement déplorable de voir que les gens des CHSLD ont été laissés abandonnés complètement par le système, sous prétexte qu'on voulait surtout se concentrer au niveau des hôpitaux. Mais tu sais, vous savez, l'acronyme du CHSLD, c'est un centre hospitalier de soins longue durée. Alors, ils ont complètement abandonné ça. Et d'où, vous savez, l'expression que c'est un mouroir. Alors, on dit bien, regardez bien, là, l'impression que j'ai, c'est que les dirigeants, peu importe les niveaux où ils étaient dans la chaîne à partir du CHSLD lui-même, du CIS ou du CIUS, aller au sous-ministre à Québec qui s'occupait de chacun de ces secteurs, puisqu'il y a plusieurs sous-ministres à la santé. Et ces gens-là ont complètement délaissé complètement les CHSLD, mais c'est aussi culturel. Hein. Je l'entendais hier à l'émission télévision qu'il y avait à LCN où les invités qui parlaient disaient bien que c'est culturel d'abandonner les CHSLD.
Ben, je vous dirais.
C'est l'impression des familles.
Oui, je vous dirais, M. Garipi, les personnes âgées qui se retrouvent comme ça dans des centres, c'est pas un gros lobby, c'est pas des gens qui se font entendre, ils sont pas syndiqués, ils vont pas manifester, donc c'est pas une énorme pression sur le pouvoir politique. Mais ce que vous soulevez, M. Garipi, c'est de dire c'est une vaste bureaucratie, puis les gens prennent des décisions, mais est-ce que ça se rend? On n'est pas certain de ça, on n'est pas capable de le mesurer, on n'est pas capable de le vérifier. Puis, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu de plan d'action avant le mois de mars terrain dans les centres. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair, définitif. Et je peux vous dire que j'ai rencontré même quatre mois après le, je vous dirais, après le 14 mars, 4 mois plus tard, j'ai eu le droit à avoir accès. Puis là, j'ai demandé de rencontrer les gens à l'intérieur. Et ils ont dit oui, on fait ça, on rencontre les familles. Alors, je suis invité à rencontrer, ils sont à peu près une douzaine de personnes à la table, et mais il n'y a personne qui est administratif. Ce sont simplement les gens, bon, les gens de la cuisine, l'infirmière, les gens qui s'occupent de la physiothérapie, l'ergothérapie, ce genre de choses-là, les gens qui font les animations. Mais j'ai dit, je vous aime tous, vous autres, là, vous êtes tous excellents, c'est vous autres qui soignez puis qui s'occupez de nos gens. Mais j'ai dit, les gens administratifs, ça, il n'y a pas personne ici. Et finalement, j'ai fini par avoir quelqu'un qui dit, ben oui, ben moi, je suis près de l'administration, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, depuis 4 mois, est-ce que vous avez reçu des directives, des procédures pour expliquer, voici ce que vous, comment vous devez agir, quoi que ce soit les zones froides ou chaudes ou rouges ou jaune, peu importe comment on les appelait d'un établissement à l'autre. Est-ce que vous avez eu des procédures? Est-ce que vous avez, si vous les avez eues, ces procédures, est-ce que vous avez formé votre personnel à cela? J'en dis oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais si j'aimerais voir la directive, les procédures que vous avez faites. Je les ai jamais eues. J'ai dit, écoutez, madame, ça a été mon domaine d'avoir des directives et des procédures, de travailler avec ce genre de système-là. Je veux voir ce que vous avez fait. Dites-moi pas oui, je veux voir. Et j'ai dit, c'est parce que si vous me dites, vous me croyez pas, vous me dites, oui, madame, je vous crois pas. C'est tout à fait ça. Et là, j'ai dit, si vous me parlez des équipements de sécurité, combien est-ce que vous utilisez de gants et de jaquettes et de masques par jour? Si vous me dites, exemple, je fais juste pour la discussion, vous en utilisez 100 par jour. Combien en avez-vous en stock présentement? Est-ce que vous en avez 600? Si vous en avez 600, vous en avez pour 6 jours. Alors, on continue comme ça, puis je continue toutes les procédures pour s'apercevoir que c'était le néant complet 4 mois après. Alors, c'est épouvantable. Même si, en mars, on envoyait des procédures, semble-t-il qu'on envoyait des politiques et des procédures, des directives dans les CIS pour dire « vous devez agir de telle façon », 4 mois plus tard, au CHLD Sainte-Dorothée, c'était le capharnaüm complet. Et là, il y avait un manque de personnel, il y avait des relèves complètes, sans médecins, sans infirmières auxiliaires et sans petits gestionnaires là, de relève. Les gens étaient laissés, ceux qui allaient travailler étaient laissés à eux-mêmes et ils y allaient parce qu'il y avait un grand cœur, puis ils disaient, bien, regardez, on va s'organiser ensemble, on n'a personne en fin de semaine, mais on sait comment faire notre travail, on va faire notre possible. C'est épouvantable, ça.
M. Garipi, non seulement c'est épouvantable, c'est inacceptable. Et souvent, on cherche les mots, là, mais ce matin, ce que vous venez de résumer à vous seul, il n'y a pas rien à ajouter. C'est d'une tristesse, c'est d'une clarté, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Malheureusement, votre femme est décédée, pas de la COVID, mais un peu plus tard, donc, après.
Oui, c'est ça, exactement. En fin de l'année passée, Louise est décédée de ses hémorragies cérébrales, la maladie qui l'a emportée. Mais je vous dirais qu'à ce moment-là, dans la période des fêtes, il y avait une belle équipe autour d'elle. Les gens ont fait un travail superbe. Je les remercie encore, même si je l'ai fait à l'époque. S'ils écoutent ce matin, je les remercie encore pour le merveilleux travail qu'ils ont fait.
M. Garipi, merci d'avoir pris le temps ce matin. Bonne journée à vous.
Merci, M. Abdien. Au revoir.
Jean-Pierre Garipi, le conjoint de Louise, ancien directeur du service de police de Laval. Sa conjointe s'est donc retrouvée, comme un certain nombre de Québécois et de Québécoises, transférée de l'hôpital vers un centre de soins de longue durée, alors qu'on est donc en pleine pandémie. Et tout ça s'est fait dans un système au niveau du terrain, et on va en parler dans quelques instants avec la protectrice du citoyen Marie Rinfret, où, et tu essaies de comprendre là, quand tu lis le rapport, est-ce qu'on l'a échappé, on l'a pas vu, on en a parlé, mais il n'y a pas de trace de ça. Puis quand je vous dis que ça prend une enquête publique, plutôt que des enquêtes comme ça, protectrice, commissaire à la santé, coroner, avec le nombre de morts, puis le fait que le Québec a affiché le pire bilan dans les centres de soins de longue durée, qu'on n'ait pas, pour des raisons politiques, accepté l'idée d'une commission d'enquête publique, puis il y en a encore qui en réclament une aujourd'hui, là, le Parti québécois et bon, Québec solidaire. Il y a quelque chose d'invraisemblable. N'importe quelle tragédie qui aurait coûté la vie autant de personnes, on l'a fait, là, je fais une petite parenthèse, sur la nomination des juges, mais pas capable d'en faire une sur l'hécatombe dans les centres de soins de longue durée.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
On va parler de cette étude qui a été présentée hier concernant le désengagement policier. Qu'est-ce que ça veut dire, le désengagement? Ça veut dire des policiers qui hésitent ou refusent de poser certains gestes que normalement un policier va poser parce qu'ils ont peur de se retrouver sur la place publique, d'être filmé, d'être en déontologie. Camille Faubert est donc la chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec. Madame Faubert, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Donc, vous avez parlé à ces policiers. Pourquoi ces policiers, enfin, hésitent? Puis est-ce que c'est vrai pour Montréal, c'est vrai pour les grands centres ou c'est vrai partout au Québec?
En fait, dans le cadre de l'étude, nous, on a parlé à 21 policiers qui ont voulu... attendez juste une minute. Qui ont voulu s'exprimer sur le désengagement policier. Et ce qu'on voulait, c'était d'en identifier les causes. Donc, on a pu observer un certain nombre de causes qui expliquent pourquoi il y a cette espèce de baisse de l'investissement au travail. Puis, juste par rapport à votre question, si c'est un phénomène de grand centre, on a pu observer ça, en fait, chez des policiers là, qui travaillent à divers endroits dans la province. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est ciblé à certains endroits précis.
OK. Certains vous diront 21 policiers, ça me semble peu.
Oui, on en était conscient dès le début, mais c'est aussi une première initiative de recherche qui est plus exploratoire et qui a été faite dans le but de lancer un projet, une troisième phase là, du projet futur qui sera de plus grande envergure et qui, là, sera basé sur un plus grand échantillon de policiers et sur un questionnaire là, systématique.
OK. Qu'est-ce qui vous frappe sur la raison de lever le pied, comme on dit, de pas être plus impliqué dans leur travail de patrouille, par exemple?
Ben, en fait, ce qui nous frappe, il y a certains des éléments qui ont été mentionnés par les policiers québécois qui avaient déjà été abordés par les travaux américains. Donc, il y a certaines choses là, auxquelles on s'attendait. Par contre, je pense que ce qui nous a frappé le plus, c'est le fait que dans les discussions avec les 21 policiers, on a identifié 17 causes ou 17 éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, pas les 17 qui ont été mentionnés par tout le monde, mais quand on recense tout ce qui a été mentionné, donc il y a 17 éléments qui sont ressortis. Et c'est la convergence de plusieurs de ces éléments-là en même temps qui peut mener à des comportements de désengagement.
Mais donnez-moi un exemple de ce que vous voulez dire.
Ben, en fait, on parle de plusieurs craintes. Par exemple, là, comme vous l'avez dit en introduction, des craintes là, de conséquences comme de poursuites ou d'enquêtes du BEI, également la crainte d'être filmé, la crainte de se faire dire là, qu'ils sont racistes ou qu'ils font du profilage racial. Et à tout ça, on ajoute aussi les critiques du public qu'ils ressentent et aussi un manque de soutien organisationnel. Donc, c'est tous ces éléments-là mis ensemble qui crée un contexte. Donc, c'est pas s'il y a un de ces éléments présents, il y aura forcément des engagements, mais c'est tout ça mis ensemble qui crée un contexte.
Mais juste pour comprendre aussi, puis pousser ça peut-être un peu plus loin, je sais pas si vous avez la réponse, mais Est-ce que ça nous donne des policiers qui répondent aux appels, qui interviennent quand ils sont témoins de quelque chose, mais qui sont pas très proactifs? Est-ce que c'est le genre de police qu'on a au Québec?
C'est le genre de cas de figure qui a été expliqué. Par contre, ça se manifeste pas nécessairement dans toutes les circonstances, toujours. Il y a certains types de situations où les policiers vont agir de cette façon-là, et le type de situation peut varier d'un policier à l'autre. Donc, c'est difficile là, d'avoir une situation type, mais oui, ça, c'est sûr que ça touche moins la réponse aux appels que les interventions proactives.
Exact. Merci, Mme Faubert. Camille Faubert est chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.